Bon, premier sujet pour les commissaires ce matin. On a vu la semaine dernière l'Alliance des professeurs de Montréal qui a annulé l'invitation faite à Nadia El-Mabrouk pour participer à un colloque. Et on connaît ses positions au sujet des signes religieux. Et là, ce sont des enseignants, des délégués des enseignants qui ont pris cette décision-là. Puis là, ce matin, on apprend dans le Devoir que l'Alliance va peut-être reconsidérer cette décision, oui, puis peut-être la réinviter à aller au colloque.
Oui, une assemblée extraordinaire de l'Alliance pour reconsidérer cette décision-là. Et bon, souhaitons qu'ils reviennent sur cette décision-là. Probablement qu'ils vont revenir. Mais disons que tout le processus sent mauvais. Il sent mauvais à plusieurs égards. C'est qu'il y a 34 000 membres à l'Alliance. Et tout d'un coup, 34 000 membres qui ont l'air de refuser de recevoir un invité qu'ils ont déjà invité. Et donc, de recevoir quelqu'un pour débattre d'idées qui seraient peut-être contradictoires avec les positions officielles de leur syndicat. Bon, c'est d'abord, quand tu invites quelqu'un, c'est extrêmement impoli de le désinviter, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que de penser que c'est un cas de censure. Comme souvent dans les organisations, qu'elles soient syndicales, mais c'est vrai ailleurs aussi, il semble qu'il y ait un groupuscule qui ait orienté cette décision-là, tu sais, qui a dit, nous autres, on s'oppose à ce qu'elles prennent la parole. Ça, pourquoi c'est inquiétant, puis la raison pour laquelle on en parle ce matin, c'est que on voit ce phénomène-là se produire dans des universités américaines, un peu partout, où de plus en plus, il y a une tendance à dire que quand quelqu'un ne pense pas comme nous, globalement, comme organisation, cette personne-là, on ne l'écoutera même pas, on discutera pas avec elle, on n'échangera pas avec elle parce qu'elle est honteusement contre ce qu'on croit.
Oui, et les critères sont toujours au-dessus de tout soupçon. Hein. Par exemple, à l'UQAM, université hyper progressiste, ben il y a ce groupuscule-là, comme tu l'appelles, Pierre, qui va dire, nous, on veut pas entendre de discours colonialiste. Mais là, c'est quoi la définition du colonialisme? Qui décide qu'un discours est colonialiste? Dans la même foulée, on veut pas entendre de discours là, qui sont pro-pétrole. Donc, il y a des gens sur des campus qui voulaient aller débattre des énergies renouvelables et quelqu'un allait tenir la position du pétrole, ben non, on t'invite même pas, on veut pas t'écouter. Mais tu le dis, c'est groupuscule. Mais là où tu t'interroges, c'est, tu te dis, bon, regarde, voici des gens qui militent dans un syndicat qui défend les enseignants. Et là, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de dire, on va désinviter quelqu'un, mais sous quelle roche tu vis? Comment tu peux penser que de nos jours, un, ça va passer inaperçu, puis deux, ça va passer comme une lettre à la poste? C'était clair comme de l'eau de roche qui allait arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire une levée de bouclier. Vous allez vous faire planter et l'Alliance est un peu obligée de faire marche arrière. Donc, mais ça dit quelque chose sur le fait que oui, il y a des groupuscules. Moi, j'insiste là-dessus. Je pense encore que la majorité des gens dans les organisations, dans la société, sont prêts à entendre toutes sortes de discours. Mais tu as des groupuscules qui vont noyauter des organisations pour faire taire ces discours-là. Ce qui est stupide en soi parce que Mme El-Mabrouk a d'autres tribunes. Ces discours vont continuer à proliférer. C'est pas comme ça que tu veux l'étouffer.
Mais puis il faut voir à quel sujet elle a été. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ça, c'est intéressant aussi. C'est une personne qui est en faveur de la laïcité. Donc, dans le cas qui nous occupe, qui est imposer aux enseignantes la laïcité, c'est-à-dire trouver une solution. On en a parlé hier.
C'est larguer les signes religieux. Oui.
Laisser tomber les signes religieux. Bon, on peut ne pas être d'accord. Bon, personnellement, je ne le suis pas non plus pour ce qui est des enseignants. Mais il n'empêche quand même que moi, qui suis un défenseur de la laïcité, je serais drôlement intéressé à entendre le débat. Surtout que c'est le débat d'une femme et qu'elle oriente ça vers le féminisme. C'est-à-dire qu'elle dit faut faire attention pour ne pas comme sous-estimer l'importance de l'oppression que les signes religieux font sur les femmes. C'est dans ce contexte-là, elle est d'origine musulmane elle-même, c'est une Tunisienne, d'une part. D'autre part, il semble qu'elle ait des positions assez fortes sur les cours d'éthique et de culture religieuse. Puis Dieu sait que c'est un... Dieu sait. Oui, c'est fou comme on est d'une certaine culture. Mais disons que Dieu et le diable se doutent bien qu'il s'agit d'une question complexe et récurrente. entre, c'est qu'est-ce qu'on enseigne et est-ce qu'on n'est pas en train de définir en quelque sorte quelqu'un par la religion à laquelle il appartient ou pas. Je pense que c'est un peu ça sa position. Puis il y a aussi un autre sujet extrêmement délicat qui est le transgenre, là, parce qu'elle dit, ben là, c'est en train de devenir une espèce de religion en soi que les transgenres, et on est en train de définir les hommes et les femmes à partir d'une notion très vague qui est que ton genre, c'est un petit peu ce que tu décides que ça va être. Puis elle a des arguments assez forts pour dire qu'il faudrait faire attention à cette dérive-là.
Ben, elle a des arguments forts, mais Mme El-Mabrouk a aussi, à mon sens, des termes qui sont... on va appeler ça toxique. Tu sais, dire que c'est fantaisiste, comme elle l'a dit, elle l'a écrit dans la presse, le concept des personnes nées dans le mauvais corps, moi, je trouve que, sans franchir une ligne, est-ce qu'on dirait... C'est un discours qui ressemble à ce qu'on disait des homosexuels à une certaine époque. Ah, oh, c'est un choix. Ah, oh, c'est un mode de vie. Pas si vrai que ça, que les gens naissent gays, etc. Mais oui, il y a des gens qui naissent dans le mauvais corps. Après ça, si tu veux t'interroger sur le fait que, très jeune, tu as des enfants qui se mettent à se déclarer d'un autre sexe ou à vouloir subir les traitements qui vont les faire migrer vers l'autre sexe, ben oui, posons-nous des questions. Ces gens-là, ces jeunes-là sont bien souvent à un âge où c'est difficile de prendre des décisions aussi lourdes de sens. Parfait. Mais quand elle dit que c'est fantaisiste, je comprends, moi, que ça peut heurter non seulement des personnes qui sont transgenres, mais les parents de ces enfants-là, qui les aiment et qui voient le tourment que ça cause de pas avoir, d'avoir des doutes quant à son identité de genre. Donc, ceci étant dit, ces positions-là étaient connues. Et une fois que ces positions sont connues parce que elle en parle publiquement, elle en parle souvent dans la presse où les chroniqueurs invités, mais pourquoi on l'a invité? C'est ça qui est fascinant. Si c'est incompatible avec la chose scolaire, invitez-la pas. Mais une fois qu'elle est invitée, allez débattre avec elle, allez au micro, puis avec des faits, contredisez-la. Dites-lui qu'elle a tort.
Mais c'est ça un peu, je l'ai dit. Même si elle a dit ça, puis on a le droit d'être en parfait désaccord avec elle, là, c'est une belle fenêtre pour aller argumenter puis aller soumettre un point de vue différent. Mais c'est pas ça. Ces gens-là, c'est pas ça. L'idée de base, il faut que tu penses comme eux.
Oui.
Sinon, je veux pas t'entendre. Je veux pas te voir la face, puis je veux pas t'entendre. C'est ça le mantra là, de ces hommes bien-pensants.
C'est la position d'un hyper-progressisme. Et quand tu parles avec ces gens-là...
Mais ça, j'aime pas ça, cette expression-là. Hyper-progressiste. Moi, je trouve pas ça progressiste.
Mais Paul, je le dis avec un peu de sarcasme. Okay. Tu comprends? Moi, j'ai souvent dit que trop de progressisme tue le progressisme. Mais moi, je suis d'une vieille gauche. Puis ce que je veux dire par une vieille gauche, c'est une vieille gauche... où la vision, disons, est celle d'un État qui intervient et qui va redistribuer la richesse. Un État qui s'arrange pour égaliser le terrain de jeu, pour que tout le monde ait des chances, disons, semblables. Mais là, on entre dans une ère où la gauche s'est rendue... Écoute, si tu penses que c'est pas nécessairement une bonne idée d'avoir des toilettes qui sont non-genrées, ben pour cette gauche-là, c'est rendu un crime contre l'humanité. C'est ce que je veux dire par hyper-progressisme. Je le dis avec un peu de sarcasme, mais ça existe. Et ces gens-là noyautent des organisations. On le voit à l'UQAM, on le voit maintenant à l'Alliance des profs. Qu'est-ce que ça fait? T'as toute une organisation qui a l'air d'être, disons, assez marginale. Mais moi, je suis d'accord avec toi, débattons. Mais sur certains campus, le seul fait d'inviter des gens dont les vues sont considérées pour l'hyper-progressisme comme étant toxiques, comme étant inacceptables, c'est inacceptable en soi.
La vraie question qui se pose maintenant, si elle est invitée de nouveau, est-ce qu'elle va accepter? Il faut signaler que Pascal Navarro a décidé de se retirer. C'est un geste très conséquent avec ses positions.
En tout cas, le vote, c'est en fin de semaine. On va voir...
L'Assemblée spéciale pour
L'Assemblée spéciale là, pour décider est-ce que je peux t'inviter ou pas. Puis là, je t'ai invité. Ça fait... Mais là, finalement, je t'ai désinvité. Mais là, je pense à peut-être te réinviter.
Imagines-tu en coulisses comment ça doit s'activer pour noyauter le vote?
On va consulter les instances pour savoir si on peut t'inviter ou pas.
T'es pas sûr que tu vas aller au party.
Mais là, je vous invite pour le prochain bloc où on va parler de ce sondage, entre autres, ce matin, qui montre que la lune de miel se déroule encore très bien entre la CAQ et les Québécois, la métropolitaine.